2013, Capitale désenchantée, est allé le titre du dossier spécial réalisé pour les fêtes par Le Ravi, mensuel régional satirique. Dans son numéro de décembre, donc, une enquête menée en compagnie du site d'information Mediapart. Une enquête qui constate un scepticisme important parmi nombre d'acteurs culturels de la région. 2013, Capitale désenchantée, était aussi le titre du débat organisé par Le Ravi au théâtre Antoine Vitesse à Aix-en-Provence, dans la foulée de la parution de ce numéro de décembre. C'était le vendredi 9 décembre, un débat pour lequel était présent Jean-François Chounier, directeur de Marseille-Provence 2013, Jean Bonfillon, vice-président délégué à la culture de la communauté des Pays d'Aix, Daniel Herman, adjoint à la culture de la ville de Marseille, Claire Antoniazza, adjointe à la culture de la ville d'Arles, et Nicolas Mezzetti, universitaire. Un débat animé par Michel Guéraud, rédacteur en chef du Ravi. C'est ce débat que nous vous proposons d'écouter pour l'heure qui vient sur les 3-8.
C'était il y a un an, donc on posait la question, peut-on miser sur 2013 ? C'était le thème donc, en 2010 de notre premier débat public sur la capitale européenne à Marseille avec Menucci, Muselier et Peset, élu en charge de la culture. Un an plus tard, non, un an avant Marseille-Provence 2013, ceux qui doutent du succès de l'année capitale sont objectivement plus nombreux que ceux qui prédisent un triomphe. Un sentiment domine, on le déplore ou qu'on le constate, le désenchantement. Et c'est pour ça qu'on a titré Capitale européenne désenchantée. Le Ravi et Mediapart ont enquêté ensemble à Aix, à Arles, Marseille et ailleurs, d'ailleurs aussi sur le territoire de cette fameuse province dont on parle, dans les coulisses de cette capitale désenchantée, donc pour comprendre ce qui cloche à un an de l'échéance. Beaucoup de questions, donc, et pour y répondre ce soir, 5 invités, 3 élus en charge de la culture, Claire Antoniazza, Jean Bonfillon, Daniel Herman, je présenterai plus en détail ensuite, un observateur, Nicolas Mezzetti, et Jean-François Chounier, le directeur de MP 2013. On va peut-être démarrer sur ce plateau qui n'est pas très mixte, et en faire honneur aussi à celle qui est venue le plus loin, géographiquement, ce soir, par Claire Antoniazza. Donc, vous êtes adjointe à la culture à la ville d'Arles. Alors, on a l'impression qu'Arles est presque un village gaulois dans cette affaire, parce qu'il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de doutes, on le dit. Et Arles, alors Toulon s'est retiré dans la période de Marseille-Provence 2013. La communauté de communes de Ouest-Provence n'est pas partie prenante en tant que telle, même si certaines villes en font partie. Des doutes s'expriment sur ce territoire, et Arles semble très déterminé à participer à cette capitale urbaine. Est-ce que vous percevez comme une exception dans cette affaire-là ?
Je ne sais pas du tout si on est une exception. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que depuis le début, la ville est tout à fait partie prenante dans le projet, parce que la ville d'Arles est une ville de culture et de patrimoine, et que pour nous, c'est un projet qui est... peut être déterminant, et qu'en tous les cas, on s'est attaché à ce qu'il soit le plus positif possible. C'est une aventure risquée, sans doute, mais en tous les cas, nous, elle nous passionne. Et dès le début, le maire a montré son engagement au moment de la candidature. On n'était pas loin d'Avignon quand il y a eu Avignon, capitale européenne de la culture, et on a beaucoup regretté justement que les villes voisines ne soient pas du tout impliquées. Et là, ça nous paraissait être une opportunité importante de marquer que tout ce territoire, et notamment Arles, Aix, Marseille, avait quelque chose à partager ensemble autour de la culture, autour de la création artistique, et que le patrimoine et les démarches artistiques pouvaient fonctionner et donner à voir des choses qui portaient les gens, qui leur permettaient de fonctionner mieux ensemble. Tous ces enjeux qui sont dans une capitale européenne, au-delà, pas au-delà d'ailleurs, qui sont le fondement d'une capitale européenne, même si par ailleurs, et il y a d'autres enjeux qui sont évidemment des enjeux de développement territorial, des enjeux économiques, des enjeux touristiques.
Jean Bonfillon, vous êtes chargé de la culture à la CPA, à la communauté du Pays d'Aix. On vous remercie d'être là ce soir. Au Ravi, donc on n'a pas la langue de bois. Pendant cette enquête, ça n'a pas été facile. Ça a été très, très long d'arriver à obtenir du pays d'Aix ou de la ville d'Aix. Simplement, il y a des réponses à nos questions. Hein. On était associés, je vous le rappelle, à Mediapart dans cette enquête. Ça a été possible, donc on a pu parler avec Marie Joissin. Et elle ne nous a pas déçus. Marie Joissin m'a parlé avec la vigueur et l'enthousiasme qu'on lui connaît. On peut dire que c'est l'anti-Arles, Aix. Hein, Arles, tout se passe tranquillement.
Préciser.
Alors je précise, 2008, donc... Il y a une valse, une longue hésitation à s'engager dans la capitale européenne. 2009, il y a un moment, un bras de fer autour de l'implantation de l'université où Marie Joissin dit « si l'université n'est pas à Aix, je ne vais pas dans MP 2013 ». Avril 2011, au moment du départ de Bernard Latarger, il y a eu aussi un bras de fer et il y a comme ça. Et là... Dans le ravi, donc Marie Joissin dit, je découvre que la ventilation du budget, on en parlera, pouvait réagir, mais la ventilation du budget fait que sur les 7,5 millions que la communauté du Pays d'Aix va verser à MP, il y avait la ville d'Aix, va verser à MP 2013, seulement 4,3 millions vont revenir au territoire. Ce n'est pas possible, elle dit. Soit la programmation est revue, soit nous ne donnerons que 4,3 millions. Donc ça paraît... très, très douloureux, tout ça.
Oui, mais enfin, je crois qu'il faut parler de culture. Hein. C'est une bonne chose que de parler de Marseille-Provence 2013, événement culturel. Le reste, c'est sûr que ça fait partie, si vous voulez, de toute une mayonnaise qui se fait tout autour, entre les uns, les autres. Ce sont des personnalités, souvent, qui parlent et qui s'expriment et fortement. Donc c'est vrai qu'à un moment ou un autre, on arrivera à faire les choses, il n'y a aucun souci. Simplement, ben, effectivement, les politiques, comme on les appelle, ben, de temps en temps, des coups de gueule en disant ben, « je ne suis pas d'accord ». Si on n'est pas d'accord, on en rediscute et on arrive à retrouver. Effectivement, Marise n'était pas très satisfaite du retour sur investissement par rapport à d'autres villes que je ne nommerai pas, mais qui avaient... C'est vous qui l'avez dit. Mais voilà, mais et ben, tout ça, après, ça se discute. Et on va arriver à trouver.
Pour que le public comprenne, d'après ce que je comprends, moi, Arles reçoit peut-être plus que ce qu'il ne donne à la capitale européenne.
La prévision...
Le phénomène inverse.
Actuellement, la prévision nous amènerait à imaginer cela. Donc tout ça va être revu, corrigé. Jean-François est là pour... Mais en plus, on travaille tous, je pense, très sincèrement, main dans la main, il faut arriver. À l'instar de ce que disait madame, effectivement, moi, je trouve que c'est bien. Ça nous permet de nous connaître, de travailler ensemble. Et Dieu sait si c'est une bonne chose, parce que après 2013, il y aura 2014 et les années et les décennies à venir, et ce sera certainement une bonne chose. Alors, qu'il y en ait qui veuillent aller dans des métropoles, pas des métropoles, etc. Tout ça, c'est un jour les choses se feront, nous ne serons d'ailleurs plus là, mais il faut le préparer, tout ce territoire, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, se poser des questions. Est-ce que Marseille-Provence 2013, avec ses territoires associés, ça va être une réussite? Moi, je dis qu'on en prend petit à petit le cheminement, et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Pourquoi Istanbul 2000, je ne sais plus combien, n'a pas terriblement bien marché? Je sais que ça a été pour eux, non pas un échec, mais ils attendaient beaucoup plus. Pourquoi Patras, l'organisateur, est parti avec la caisse? Pourquoi Glasgow? Pourquoi? Moi, je dis, arrêtons de nous poser des questions. Nous avons Marseille-Provence 2013, nous avons des territoires associés. Nous nous connaissons quand même bien les uns les autres. On va se connaître encore mieux, je pense, dans les semaines, les mois à venir. Et on va justement imaginer cet avenir ensemble. Et je crois que c'est ce qu'il faut retirer de Marseille-Provence 2013. Oublions, si vous le voulez bien, toutes les petites querelles entre les uns et les autres, qui ne sont encore une fois que l'émanation de personnalités.
Sur le fond, quand même, une réponse. Est-ce qu'il est légitime de demander à ce qu'il y ait une équité, une égalité par rapport aux sommes investies et au retour sur investissement dans le territoire donné?
Il me semble qu'il est logique que de trouver un équilibre. Ça ne veut pas dire que ça va être très très linéaire, je suppose, mais on va arriver à peu près à satisfaire tout le monde. Vous verrez ce que je vous dis. Ma main au feu que dans quelques mois, tout ira bien.
Peut-être un mot, Jean-François Chounier, là-dessus, sur la ventilation du budget. Est-ce qu'il ne serait pas normal, après tout, qu'une ville comme Aix, richement dotée sur le plan culturel, donne un peu, permette, dans l'apport avec son argent, avec sa richesse culturelle, d'aider des villes qui le sont moins, Marseille par exemple?
La complexité du financement de Marseille-Provence 2013 est un peu plus compliquée qu'à une logique de péréquation de ce genre, puisque nous sommes sur un budget de, pour dire des chiffres, on essaiera de ne pas en abuser, mais puisque vous parlez de chiffres, il faut bien donner quelques chiffres. On est sur un budget de, disons, de 90 millions pour éviter les arrondis. En fait, le financement de Marseille-Provence 2013, d'ailleurs, c'est une des complexités en même temps d'un des intérêts de l'opération, est très réparti. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le mécénat qui fait 15 millions, ce qui n'est pas rien hein, dans les temps économiques qui courent. Il y a l'État, le conseil régional et le conseil général. Et il y a ensuite les villes et les agglos. Donc il y a donc une très grande multiplicité de partenaires, puisque si on compte en plus mécène par mécène, c'est plus de 50 financeurs. Donc c'est quelque chose de très important. Donc le débat, il n'est pas prendre à Aix pour donner à Arles, ou prendre à Aix pour donner à Martigues, ou prendre à Marseille pour donner à Martigues. Il est que l'ensemble, d'abord que la programmation, comme le disait Jean à l'instant, se fasse et qu'elle soit si possible intéressante. Je crois que c'est quand même un peu notre boulot. Deuxièmement, qu'il y ait un équilibre de la programmation, non pas pour faire plaisir à tel ou tel élu, mais parce que on a 73 communes, ça c'est le dernier chiffre que je citerai dans cette réponse. On a 73 communes, il ne s'agit pas de dire chacune des 73 communes aura le même événement standardisé, ça serait évidemment, et tout le monde le sait ici, complètement ridicule, mais il s'agit de faire vivre justement cet ensemble inédit, je le répète, et ça c'est le grand intérêt de l'opération, cet ensemble inédit volontairement choisi par l'ensemble des collectivités, puisque les collectivités, personne ne les a obligées à adhérer, c'est un point très important à rappeler, et que qu'il y ait donc un équilibre, comme on dit, de programmation. C'est pas technocratique de dire ça, tout le monde peut comprendre ce que ça veut dire, c'est qu'il y ait une programmation à la fois sur toute l'année, parce que quand je dis équilibre, ça veut dire toute l'année, une année c'est long, hein, c'est 3 ans, plus de 300 jours, puisqu'on commence le 12 et 13 janvier, donc on gagne 11 jours, mais enfin, ça fait quand même plus de 350 jours, et sur un territoire qui est assez vaste, puisque, comme chacun sait, il suffit de le parcourir comme nous le faisons un peu dans tous les sens, pour savoir que le département des Bouches-du-Rhône et les communes limitrophes qui sont dans le champ du projet, c'est un territoire vaste, 1,7 million d'habitants, enfin, tout le monde le sait, mais c'est bien de le rappeler de temps en temps, ça fait un territoire assez vaste. Donc la question du retour sur investissement, comme on dit, ressources sur, pas investissement, mais sur financement, pour être plus exact, elle est, je pense, légitime, parce que les élus, c'est de l'argent public, et il est normal que les élus puissent dire à leur conseil municipal à quoi a servi l'argent public, ça me paraît assez normal, et en même temps, je pense qu'elle n'est pas une espèce de fin en soi, elle vise à réfléchir à un équilibre cohérent de la programmation.
Marseille, il y a Marseille-Provence, Marseille, c'est quand même la ville qui apparaît peut-être un peu trop en tête. Donc il y a un sentiment de crainte parfois que la ville-centre absorbe toute la lumière dans cette affaire-là. Comment rassurer les gens ?
Écoutez, tout d'abord, moi, sans faire jeu de mots, je suis ravi d'être parmi vous pour justement répondre aux interrogations du public. Et il est vrai que le public du territoire, d'ailleurs, se pose beaucoup d'interrogations sur 2013. Alors, vous savez, il faut refaire un peu l'histoire aussi, hein, c'est pas si simple. C'est que lorsque Marseille a décidé d'être capitale européenne, donc un jour, on l'a proposé au sénateur maire Jean-Claude Gaudin, il a pris son bâton de pèlerin, il a dit « il faut que ce soit aussi un territoire ». Il est allé à Toulon, malheureusement, bon, ils sont plus là. Il est allé à Aix, il est allé à Arles, c'est-à-dire les villes où il y avait une forte tradition culturelle. Et je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que, par exemple, Arles a une forte tradition, aussi bien taurine, du cheval. Elle a de très beaux musées, dont un a eu la chance extraordinaire d'avoir le buste de César. Il y a les rencontres de la photographie. Donc, il était tout à fait normal. À Aix, il y a le lyrisme, il y a le grand théâtre, il y a une activité culturelle intense. Et il était normal, justement, que pour 2013, alors que ce territoire est un territoire de festival, est un territoire qui attire des millions de touristes culturels aussi, pendant l'été, c'était, je pense, tout à fait logique que la ville de Marseille propose à l'ensemble du territoire d'être capitale européenne de la culture. Et vraiment, moi, je vous dis, j'en suis très heureux. Et je ne pense pas que Marseille veuille imposer une hégémonie aussi bien à Arles, enfin, je ne pense pas, ni à Aix, ni à qui que ce soit, quoi.
Alors, c'est le ravi, donc c'est vache, hein, forcément, hein, mais on a titré « Est-ce que cette capitale européenne de la culture ne serait pas là pour effacer 15 ans de flou artistique en matière de politique culturelle à Marseille ?» Il y a je vais citer une personnalité qui vous a précédé dans la fonction d'adjoint à la culture, c'est Christian Poitevin, connu aussi sous le nom de Julien Blaine, et qui dit « À part le folklore provençal, la culture n'intéresse pas Gaudin, qui considère à tort qu'elle fait perdre des voix, contrairement au sport ou à l'économie. » Bernard Latarger avait dit « Marseille a besoin de ce label européen parce que c'est bien la ville qui en a le plus besoin. Elle n'est pas forcément très bonne en matière de culture. » Et la pente est longue à remonter.
Je pense que c'est un peu méchant, cette déclaration qui ne correspond pas à une réalité. Hein. Le budget de la culture a été multiplié par deux sous Gaudin. Alors ça m'étonnerait qu'il s'intéresse par la culture. Par exemple, quand je vois les investissements, 600 millions d'investissements culturels sur cette ville, dont 240 millions payés par la ville de Marseille. On ne peut pas dire que le maire de Marseille se désintéresse de la culture. Quand par exemple, on voit le travail qui a été fait et l'axe culturel qu'il y a eu à un moment, hein, par mon prédécesseur, qui était celui, entre autres, par exemple, des arts de la rue, où nous avons créé la cité des arts de la rue, unique en Europe. On ne peut pas dire qu'on se désintéresse de la culture, quand il y a quand même de grandes expositions, quand aujourd'hui on refait tous les musées, 90 millions investis dans les musées. Bon, il est vrai que on peut dire, ah mais peut-être que 2013 ça a été parce que on le fait pour 2013. Certes que 2013 est un accélérateur de projets pour nous, puisqu'il va y avoir un éclairage sur cette région et particulièrement sur la ville. Mais on ne peut pas dire que la mairie de Marseille, et entre autres, j'allais dire Jean-Claude Gaudin et l'ensemble de ses colistiers ne se sont jamais intéressés à la culture. C'est totalement faux.
On a avec nous ce soir aussi un observateur qui n'est ni opérateur culturel ni élu, hein, Nicolas Mezzetti, qui est doctorant à la Sorbonne, qui prépare une thèse sur l'internationalisation de Marseille et le rôle que la culture peut jouer dans ce mouvement d'internationalisation, qui est aussi professeur à Sciences Po à Aix. Quel est le regard il y a énormément de choses qui ont été promises à travers ce projet culturel. On parle de culture, effectivement, mais on parle aussi de territoire, on parle de métropolisation, même si le terme fait parfois peur. C'est exact. Et où on en est, là, à J-1 ? On a l'impression que ça patine un peu.
Cette histoire de Grand Marseille, en fait, c'est ça l'un des enjeux aussi de 2013, c'est de créer un projet de territoire, même peut-être davantage qu'un projet culturel. Et c'est vrai que de très nombreuses tentatives ont été déployées pour créer à l'échelle d'un large territoire une métropole ici, et ça ne remonte pas à hier. Et finalement, 2013 est, de ce point de vue, le dernier avatar un petit peu de toutes ces tentatives, de toutes ces initiatives pour intégrer finalement ce que certains appellent donc une archipel de territoire, ou en tout cas un espace qui est très peu aggloméré, qui est très peu intégré. Et finalement, donc l'État a essayé dans les années 60, les élus, bien sûr, les élus marseillais, les élus périphériques ont tenté de créer cette métropole. Les experts, les aménageurs, dans les années 90, ont poussé, en disant encore un effort pour créer ce Grand Marseille. Et finalement, on demande aujourd'hui à la culture de réaliser ce qui n'a pas été fait depuis 60 ans, voire plus. Les premiers projets datent des années 20 pour intégrer cette métropole-là. Et moi, je me pose la question, je me demande si c'est pas trop demandé finalement à la culture d'assumer cette tâche, alors même que ce que on appelle ici le tissu culturel marseillais souffre de pas mal de difficultés. On le dit exsangue, on le dit précaire, à la fois dense et aussi très fragile. Alors voilà, c'est la question un peu qui est posée par 2013 et que l'on peut poser ici, c'est est-ce que finalement c'est pas trop demandé à la culture que de réaliser un grand Marseille ou un grand territoire intégré. Voilà, c'est un peu ça que je m'adresse à vous.
Une réaction là-dessus ?
Quand vous pensez que, ou quand vous disiez que la culture se projette sur le territoire, c'est une réalité. C'est une réalité que la culture dans le territoire de 2013 a un ancrage très fort. Maintenant que la ville de Marseille coopère avec la ville d'Arles, coopère avec la ville d'Aix-en-Provence, pas particulièrement, mais pour 2013, elle va coopérer. Donc c'est très intéressant. Par exemple, je sais qu'on ne fait jamais de coproduction avec le musée Granet d'Aix-en-Provence. 2013, il va y avoir une grande exposition en coproduction avec le musée Granet entre Aix et Marseille. C'est la première fois, donc je trouve que c'est très intéressant puisque c'est le grand atelier du midi dont nous partageons avec Aix-en-Provence, comme je vous disais, cette grande exposition, ou même nous avons partagé comment faire, est-ce qu'on va mettre les mêmes tableaux, comment se départage. Mais toute la journée, on a des relations entre nos conservateurs et les commissaires des expositions. Donc on a décidé qu'à Aix, ça serait plutôt la forme, c'est-à-dire le post-cubisme, et nous, le post-impressionnisme, c'est-à-dire plutôt la couleur, parce que Marseille a une luminosité avec Sarade, et que beaucoup d'artistes sont passés à l'Estac. Donc il y a des coopérations qui se mettent en place et c'est très intéressant. Et j'aimerais que, bien sûr, avec la ville d'Arles et les autres du territoire, il y ait aussi des coopérations. Donc je ne vois pas en quoi ça serait pas intéressant pour nous, sans hégémonie pour autant. Quand vous dites que à Marseille, les associations sur exsangue, attendez, ce matin, je suis encore allé inaugurer ou poser la première pierre de la rénovation du Rio, c'est-à-dire un ensemble à l'Estac, que l'on va donner aux musiques contemporaines, à l'ensemble Télémac. Quand on ouvre le CLAP, c'est-à-dire la maison pour la danse dirigée par Michel Kelemenis, quand on essaye de conforter la gare Franche, quand nous refaisons complètement la friche de la Belle de Mai, puisque nous injectons 23 millions dans 9 millions de la ville, je veux dire, il y a vraiment une volonté de la ville de Marseille, de ce que la culture doit être un des fondements de cette ville. Et je vous le dis, une grande capitale européenne et une grande capitale tout court, c'est quoi ? C'est évidemment la revalorisation de son patrimoine. Ce que Marseille, malheureusement, n'avait pas pu faire, parce que lorsque l'équipe Gaudin est arrivée aux commandes, il a fallu refaire toutes les écoles. Donc on en a 487, je crois. On a injecté plus de 300 millions. C'est sûr que vous n'avez pas le temps de refaire les musées, et ainsi de suite. Bon, aujourd'hui, avec, si vous voulez, cet éclairage de capitale européenne de la culture, nous sommes obligés d'accélérer le mouvement. Mais le mouvement, il est parti pas d'aujourd'hui. Il est parti parce qu'il y avait eu une politique culturelle dans le schéma directeur. C'était celui de 2002-2012. C'est parce qu'il y avait un schéma culturel que nous avons été désignés comme capitale européenne de la culture. Marseille n'était pas une friche, Arles n'était pas une friche, Aix-en-Provence ne sont pas des friches.
Herman, je vais vous citer.
Oui, non, mais c'est vrai,
vous avez déclaré à nos journalistes que vous parliez des politiques marseillaises de façon un peu large, et vous avez dit ils ont mis du temps à comprendre que poser de grands gestes architecturaux, avoir une industrie culturelle, c'était bon pour le développement d'une ville. C'est quand même nouveau.
Mais attendez, c'est moi qui l'ai dit, ça, d'ailleurs.
Exactement.
Mais j'assume complètement, mais je me suis aussi posé la question du pourquoi. C'est parce qu'à un certain moment, il a fallu remettre dans les écoles et ailleurs en ordre de marche cette ville qui n'était plus en ordre de marche. D'ailleurs, elle perdait des habitants. Aujourd'hui, c'est le contraire. Elle perdait des touristes. C'était pas une ville touristique. Aujourd'hui, nous en avons 5 millions. Je trouve que c'est pas mal. 700 000 croisiéristes. Donc aujourd'hui, il faut leur donner une offre culturelle. Et avec, en plus, si vous voulez, tout l'aménagement de la Joliette avec Euro-Méditerranée.
On va essayer de raccourcir les interventions. Sinon, si chacun fait son bilan,
on pourrait rester des heures. Non, mais moi, ce qui me navre, c'est qu'on ne voit toujours que le côté de la petite lorgnette, quoi. Alors que Marseille fait des efforts considérables qu'elle n'a jamais fait.
Vous écoutez La Grenouille, c'est 2013, capitale désenchantée, un débat organisé par Le Ravi, mensuel régional satirique animé par Michel Guéraud, rédacteur en chef du Ravi. Les intervenants sont Jean-François Chounier, directeur de Marseille Provence 2013, Jean Bonfillon, vice-président délégué à la culture de la communauté des Pays d'Aix, Daniel Herman, adjoint à la culture de la ville de Marseille, Claire Antoniazza, adjointe à la culture de la ville d'Arles, et Nicolas Mezzetti, universitaire.
François Chounier, alors, faire gagner 10 ans à Marseille et son agglomération, rapporter 6 euros pour 1 euro investi, placer la ville dans le top 20 des grandes métropoles, séduire les touristes, les investisseurs, les cadres supérieurs, le public populaire, les spectateurs exigeants, faire une place aux artistes locaux, défendre l'excellence européenne, changer d'image, surmonter les obstacles administratifs et politiques, etc., etc., etc. Est-ce que vous n'avez pas un peu trop promis? Et est-ce que le désenchantement qu'on constate n'est pas dû à cette attente immense qui a été levée et finalement à la réalité qui est beaucoup plus complexe, évidemment, à faire bouger.
Je ne sais pas si on a trop promis. Moi, je voudrais revenir un peu sur le mot désenchantement. Bon, il fait choc. J'ai discuté hier avec l'un des tout premiers porteurs du projet de la capitale, pas Bernard Latargé, mais une personne qui a beaucoup fait pour la capitale et qui me disait moi, j'ai jamais eu le sentiment qu'on avait été bénéficié d'un enchantement. C'est son témoignage. Donc, pour être désenchanté, il faudrait être sûr qu'il y ait eu un enchantement à un moment ou un autre dans le projet. Je pense que le projet a été conçu dès le départ comme un projet compliqué. Une bonne revue de presse facile à trouver démontrera aisément ce que je veux dire n'est pas si faux. Alors, je pense que l'autre point de la question plus sérieux que vous posez, qui est une question fondamentale, c'est vrai que mais c'est pas seulement dans le cadre du projet Marseille-Provence 2013, on fait jouer à des projets événementiels culturels ou autres que culturels des rôles de catalyseurs qui sont des rôles à la fois exaltants et en même temps très difficiles. Donc ça, c'est une réalité. On pourrait dire la même chose de l'Euro 2016, on pourrait dire la même chose de dans le département des Bouches-du-Rhône. Donc je crois qu'il y a effectivement dans le grand combat disons européen voire mondial de la fameuse attractivité des villes, il y a on cherche de l'événementiel, on cherche du contenu, on cherche du sens pour pouvoir différencier les villes par rapport les unes par rapport à les autres. L'universitaire à côté de moi, Nicolas, ne me contredira sûrement pas sur cette question qui est bien connue des spécialistes de la géographie urbaine. En ce moment, c'est devenu un thème de colloque et d'étude. Alors, c'est vrai qu'en faisant jouer beaucoup d'éléments, je pense pas qu'on ait beaucoup promis. C'est que ce qu'on a dit, dès l'origine, c'est des choses assez basiques, assez simple. Premièrement, des choses qui sont démontrées par nombreuses études sur l'impact économique de la culture, qui est que effectivement la culture a un avantage sur d'autres secteurs de l'activité, c'est que quand on investit un euro dans la culture, il part pas en exportation. Il part plutôt en effet d'attirance, puisqu'on ne peut pas la délocaliser. Donc ça, c'est quelque chose que je crois aucun économiste sérieux. Alors après, on peut discuter si le fameux taux de multiplicateur, c'est 3, 3,5, 4, 5. Il y a de la littérature économique en surabondance sur ce sujet-là. Donc dans ce sujet-là, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on est trop promis. C'est une réalité. C'est vrai de Marseille-Provence 2013, comme de tout investissement culturel. D'ailleurs, ce n'est pas spécifique à ce projet-là. Le nombre de touristes attendus tel qu'il est fixé, on s'est fixé, disons, c'est pas un objectif, mais disons une espèce d'indicateur qui consiste à dire le territoire des Bouches-du-Rhône aujourd'hui accueille schématiquement environ 10 millions de touristes, calculés, pour être technique et précis, sur le nombre de nuitées, hein, puisqu'on calcule, les touristes n'ont pas, c'est-à-dire un calcul complètement faux que les spécialistes récusent en général, puisque les gens qui dorment chez l'habitant et chez les copains ne sont pas comptés comme touristes, ce qui est un calcul, il vaut ce qu'il vaut, et c'est le seul dont on dispose, puisque on calcule le nombre de 10 millions de nuitées. On a dit dès l'origine, il peut y avoir sur un événementiel fort comme celui-là, il peut y avoir 20% de croissance. C'est pas une promesse complètement délirante. Je pense qu'elle est, c'est une des plus faciles à tenir. Donc, je pense pas qu'on ait trop promis. Je pense qu'il y a une énorme attente, bon, qui est pour nous, je dirais, à la fois extraordinairement agréable, parce que on ouvre très facilement les portes. Et donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et en même temps, comme on dit, on a la pression. C'est sûr. Mais je crois qu'il n'y a rien d'exceptionnel sur ce projet-là. Je pense que c'est des phénomènes qui se sont multipliés à partir des années 1980, qu'on constate de plus en plus. Je ne parle pas seulement des capitales européennes, c'est-à-dire on cherche de l'événementiel pour renforcer l'attractivité. Et après tout, que les culturels, dans notre cas, ou les sportifs, dans d'autres cas, en profitent pour essayer de faire des choses intéressantes, je vois rien de dramatique. D'accord. Je vois plutôt des choses plutôt intéressantes.
Un mot, donc, Monsieur Bonfillon.
Je voulais simplement revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure et sur cette interrogation que vous avez sur les métropoles, les rassemblements, etc. Alors là, il y a à boire et à manger, parce que aujourd'hui, je crois qu'on a trouvé à peu près, me semble-t-il, à travers le pôle, comment on appelle. Métropolitain, cherchez le nom, le pôle métropolitain, donc peut-être le bon outil pour essayer justement de préparer cet avenir et de dire, ben, écoutez, si de temps en temps nous travaillions un petit peu ensemble sur des projets, quels qu'ils soient, échanger, etc., et ne pas faire chacun dans son petit coin des choses. Je pense que si cela avait été le cas au début du siècle dernier, on n'aurait peut-être pas été obligé de reprendre ce qui a été fait ces 10 dernières années, la voie ferrée entre Aix et Marseille. Elle aurait été à double voie. Peut-être que le PLM, entre guillemets, serait passé par Aix, etc., etc. On peut en sortir comme ça des kilos. Ce qui dit bien ce que ça veut dire, c'est que quelque part, quand on peut échanger, et tant qu'on peut échanger, tant qu'il y a une interaction entre les communes et les communautés, c'est bien. Par contre, si vous dites au maire de Peigné, que je connais bien, ou au maire de Fuveau, que je connais aussi, monsieur, vous allez voir, l'impôt va être levé à partir de la ville de Marseille. J'extrapole. Hein. Là, à mon avis, on fait fausse route. On est mal barré. Il faudra encore certainement quelques années, voire quelques décennies, pour que ça se réalise. Peut-être que ça se réalisera un jour. Hein. Peut-être qu'aussi l'Europe va se faire, allez savoir. Et si l'Europe se fait, peut-être on va gommer petit à petit les États. Et puis peut-être que ce seront des régions qui vont apparaître ou pas. Peut-être de très grandes métropoles. Il y a beaucoup d'interrogations derrière tout ça, et c'est vrai que par moments c'est un petit peu. Moi, ça me fait, je dis pas que ça me fait peur, mais c'est vrai que, bon, en tant qu'élu, je me dis jusqu'où irons-nous et jusqu'où les citoyens donc accepteront-ils en un mot un jour de devenir véritablement européens? On en parle beaucoup, me semble-t-il, en ce moment. Donc quelque part, je vous dis, on n'en est peut-être pas encore là, mais Marseille-Provence 2013 est une très bonne occasion pour échanger entre nous, puisque, comme le disait M. Herman tout à l'heure, ça ne s'est pas fait pendant des décennies. Allez savoir pourquoi entre Aix et Marseille, ça ne marchait pas. Mais peut-être parce qu'historiquement parlant, Aix était, je crois, capitale de la Provence, si je ne me trompe pas. Il y avait le Parlement, il y avait les universités, chose qui n'existait pas à Marseille, qui était un port, qui était donc socialement peut-être pas du tout sur le même pied d'égalité qu'Aix, et ce qui fait que pendant des années, ça n'a pas, et des siècles, ça n'a pas très, très, très bien marché. En tout cas, sachez que lorsque moi j'étais enfant, enfin, ou ado, la première fois où je suis allé à l'opéra, c'est quand même à Marseille, parce qu'à Aix, il n'y en avait pas. Il y avait le théâtre du jeu de paume, point. Aujourd'hui, ben, nous enorgueillissons d'avoir le grand théâtre de Provence qui a été construit grâce justement à l'action menée par Maryse et les 33 maires, les autres de la communauté, qui ont dit oui à cet édifice. Ce qui prouve bien que quand même, on arrive peut-être à faire des choses tous ensemble aussi, quand on ne peut pas les faire tout seul.
Claire Antoniazza, à Arles, l'épine dans le pied, c'est le projet de Franck Géry qui devait être prêt en 2013 et qu'il ne sera pas. C'est une déception ?
Non, ce n'est pas une déception, parce que de toute façon, on sait que c'est des projets très complexes. Que de réaliser un geste architectural tout à fait contemporain, donc de Guéry, dans un lieu proche d'un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, les Aliscamps. Donc on s'attendait bien sûr à ce que ça soit un petit peu complexe, ça l'est, ça prend du temps naturellement, mais c'est quand même un projet absolument extraordinaire qui repose sur une fondation financée à hauteur de 100 millions d'euros, avec un projet artistique très, très fort, très ténu, sur l'art contemporain, une cité de l'image en relation avec les rencontres de la photographie, l'École nationale supérieure de la photographie. On a du mal à imaginer que ça ne puisse pas se faire avec tous ces atouts qui sont là. Donc, À ce jour, les permis de construire donc, vont être délivrés premier trimestre 2012.
Arles a été victime de son statut de ville patrimoniale. C'était l'innovation architecturale qui a handicapé les monuments. Qu'est-ce qui a bloqué là ?
Si vous voulez, c'est toujours très complexe quand on est dans des sites classés de construire des édifices qui sont complètement en rupture avec la dimension patrimoniale. Et puis il y a aussi la question des sous-sols qui sont souvent très riches en vestiges. Donc il y a eu tout un travail évidemment extrêmement ténu du ministère de la Culture et des architectes des bâtiments de France. Il y a des choses qui sont complexes à régler. On le savait de toute façon. Mais à ce jour, le projet n'est absolument pas remis en question et sera dans un temps... Alors, ça sera peut-être pas 2013, ça sera 2014, mais peu importe. En tous les cas, nous, on est tellement portés par ce projet de développement culturel pour une ville de 54 000 habitants. Enfin, Arles est quand même une ville très moyenne. Pour nous, c'est absolument extraordinaire de pouvoir bénéficier de ce projet de la Fondation Louma.
Je voulais vous faire réagir aussi sur les propos de Jean-François Chaunier tout à l'heure sur l'impact économique attendu de cette capitale européenne. Arles est une ville qui, sur le plan industriel, ne se porte pas excellemment bien. Le taux de chômage y est plus élevé que dans le département. Est-ce que la culture, est-ce qu'il y a un risque de monoculture, pour faire un mauvais jeu de mots ? Est-ce que la culture est la bouée de sauvetage de cette ville, de ce territoire ? Est-ce que vous misez beaucoup ? Est-ce que vous avez beaucoup d'attentes sur les retombées économiques ?
Oui, c'est pas la ville où il y a un taux de chômage plus important dans le département. Malheureusement, dans un département, une région où il y a un taux de chômage assez important. Hein. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est une ville qui a subi un désastre entre guillemets, mais c'était quand même très important industriel dans les années 80, puisque progressivement, elle a perdu toutes ses industries. C'est un territoire qui est inondable. Et là, on est actuellement, on vient d'avoir l'avis du PPRI, hein, donc qui est le plan qui concerne les inondations. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes dans une impasse, puisque l'ensemble de notre territoire est inconstructible. Ce qui veut dire qu'on n'a plus aucune capacité de développement et d'installation d'entreprises qui auraient pu éventuellement y venir. Donc, on est actuellement, et les élus évidemment se battent là-dessus, contre ça, on est dans l'impossibilité de se développer et de porter des projets d'accueil d'entreprises. Voilà, donc c'est vrai que c'est la configuration d'Arles, qui est une ville qui est un gros bourg, néo-rural, au port de la Camargue, plus grand territoire de France, parce que c'est quand même, on est quand même un tiers du territoire du département, Arles, hein, donc c'est quand même pas rien, et donc avec des charges énormes. Voilà, hein, donc c'est la configuration, si vous voulez, économique, qui fait que cette ville a des grandes difficultés économiques, objectivement, pour toutes ces raisons-là. Et c'est vrai que la culture, pour nous, est sans doute l'outil de développement. De toute façon, on a notre patrimoine qui attire quand même des milliers de touristes. Hein, on est aussi une ville extrêmement touristique. Et puis, ces grands événements culturels, ces institutions culturelles qui se développent. Et puis aussi la présence de nombreuses petites entreprises culturelles, d'artistes, de techniciens du spectacle, de graphistes, qui font qu'on a tout un tissu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, le projet Marseille 2013 est aussi assez présent dans les esprits. Hein. Il y a quand même tout un tissu de personnes qui ont envie que des choses se passent dans notre ville et qui ont envie que ça se passe bien. Voilà. Donc c'est vrai que la culture, pour nous, c'est notre axe de développement et qu'on s'y emploie. Et c'est aussi pour ça que Marseille pour Provence 2013, pour nous, est important.
Sans vouloir parler que d'économie, parce que je crois qu'au-delà de l'économie, il y a malgré tout cette découverte. Rappelons simplement les chiffres de l'exposition Cézanne en 2006, donc c'est la relance du musée Granet New Look, etc. Ce travail qu'on a commencé en 2003, puisque nous sommes allés demander quelques tableaux, je me souviens, et le début de l'exposition devait se faire justement à la National Gallery à Washington, et nous y étions d'ailleurs le 23 ou le 24 mars 2003. 2003. De Villepin venait de faire son discours à l'ONU, ce vieux continent, etc., qui s'opposait justement à l'action des Américains en Irak. Et on s'est retrouvé donc à la table d'un des rares, un des très rares d'ailleurs, musées d'État américains. Justement, on est allé leur demander les tableaux. Là, c'était assez surprenant comme atmosphère. Mais cela étant, on a vu que ça avait bien marché et que effectivement, ça a servi à des dizaines et des dizaines de milliers, 450 000 visiteurs ou 455 000, on n'est plus à 5 000 près, mais surtout et essentiellement à des dizaines de milliers de jeunes, d'écoliers, de collégiens, de lycéens, etc. Je crois que c'est ça qui est la chose la plus importante, même si ensuite, chiffre de la Chambre de commerce, 65 millions d'euros de retombées. Et c'était la seule exposition Cézanne sur quelques mois. Donc on peut imaginer qu'une Marseille-Provence 2013, c'est-à-dire un événement exceptionnel comme celui-là, qu'il se soit passé à Lille en 2004 ou qu'il va se passer chez nous dans la région en 2013, je pense que les retombées sont évidentes.
Nicolas Mezetti, sur ce terrain-là, enfin, la culture comme accélérateur de territoire, et puis quel type de culture, et puis quel type de développement, enfin...
Le problème, c'est que... L'évaluation est très difficile de ces projets-là. En fait, il y a très peu d'outils d'évaluation. Il y a un rapport, c'est le rapport Palmer, que M. Chounier connaît probablement bien mieux que moi, qui faisait un peu un point, qui date d'il y a 5-6 ans, qui faisait un point sur les difficultés justement d'évaluation des capitales européennes de la culture. Et c'est vrai que c'est pas facile. On peut faire dire aux chiffres un peu tout ce qu'on veut. Le fameux 1 euro investi, 6 euros de retombée. Personne ne sait vraiment d'où il... Enfin, on sait que ça vient de Lille, mais personne ne sait comment ils l'ont vraiment calculé. À Liverpool, par exemple, ils avaient annoncé 15 millions de visiteurs. Le problème, c'est que, en fait, c'était 15 millions de visites. Autrement dit, on calculait à partir du nombre de personnes qui allaient dans chaque manifestation. Autrement dit, si vous êtes allé à deux manifestations, ça fait deux personnes. C'est un peu les mêmes problèmes que pour les sites internet avec les visiteurs uniques et les visites. Donc en fait, on peut transformer très rapidement 15 millions de visites en 15 millions de visiteurs, puis en 15 millions de touristes, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà, il y a vraiment, sur l'évaluation, c'est très compliqué, d'autant plus qu'une capitale européenne de la culture, on a tendance quand même à penser que les retombées ne sont pas forcément que économiques ou que matérielles, mais elles sont aussi symboliques en termes d'image, en termes d'attractivité, etc. Et pareil, c'est très compliqué de mesurer la réputation d'une ville qui repose sur des croyances et qui sont pas forcément sur lesquelles on n'a pas forcément de prise. Donc voilà, donc sur l'évaluation, c'est pas facile. Et puis surtout, la dernière chose, c'est que c'est une conception de la culture qui, me semble-t-il, est assez... qui est assez problématique, c'est-à-dire que on a tendance à effectivement imputer à la culture uniquement une focale très très matérialiste, très consumériste, alors que je pense que s'il y a des opérateurs culturels dans la salle, voilà, ils savent très bien que travailler sur la culture, c'est pas faire de l'argent, hein. Et or, voilà, c'est souvent ces discours-là qu'on entend, et c'est peut-être aussi ça qui explique peut-être ce désenchantement, même si, bon, c'est vrai qu'on peut discuter sur le terme, mais voilà, ce scepticisme que vous évoquiez, il vient peut-être aussi de ce rapport entre la capitale européenne de la culture et comment elle est promue par la Chambre de commerce ou parfois dans les discours des élus, et effectivement les attentes et le travail quotidien des artistes. Il y a peut-être un hiatus là sur ces histoires d'évaluation.
Jean-François Chounier, c'est des choses qui se disent beaucoup, vous allez pouvoir y répondre. Vous avez dit dans nos colonnes, dissipons les fantasmes. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'un fantasme, mais... Si on fait un calcul sur le budget 2013, il y a la part de fonctionnement, elle est de 30% à MP 2013, elle était seulement de 20% à Lille, et certains ne comprennent pas cette différence en disant pourquoi plus. Ensuite, les structures qui vont bénéficier d'une subvention vont utiliser cette subvention pour leurs dépenses de fonctionnement, en partie. Ensuite arrivent à la fin de la chaîne les artistes, et on évalue à peu près à 17% la somme du budget MP 2013 qui va aller directement aux artistes, tous les artistes, pas uniquement. Vous allez peut-être contester ces chiffres. Certains s'amusent à enlever les cotisations après la caisse, auprès de la caisse des intermittents du spectacle, et on arrive à 7% à peu près Bon, on peut faire des calculs comme ça. Est-ce que les artistes avec ses objectifs de développement territoriaux, avec d'aménagement du territoire, avec le fonctionnement, avec la construction de tous ces équipements qu'il va falloir faire fonctionner, est-ce que les artistes vont pouvoir empêcher autre chose que des marges Et quand on dit encaisser, on parle évidemment des moyens qui peuvent trouver pour exercer leur activité, on parle.
C'est une question complexe. D'ailleurs, je voudrais juste répondre à la première sous-question de votre question, qui est la question des coûts de fonctionnement de l'association, puisqu'il faut, il faut dire la vérité. Alors, effectivement, les coûts de fonctionnement sont un peu plus importants qu'à Lille. C'est pas tout à fait 30%, mais peu importe, vous avez raison, ils sont plus importants. Pour une raison qu'on n'a pas forcément complètement en tête, c'est qu'en 2004, quand Lille a été capitale européenne, on était dans l'ancienne procédure. Alors, ce que je veux dire est très ennuyeux, mais c'est nécessaire pour l'expliquer. C'est-à-dire une procédure de désignation directe par le gouvernement de chacun des États de la capitale du pays concerné. Ça veut dire que la préparation de Lille s'est faite sur, en gros, 3 ans. Bon. Nous, on est dans la nouvelle procédure, donc, c'est-à-dire dossier de candidature à 2 tours, plus, donc ça veut dire que la préparation de la capitale culturelle, pas seulement en France, c'est vrai dans les autres pays, a commencé fin 2006, donc c'est carrément 2 fois plus de temps. Donc il y a des coûts de fonctionnement, hélas, un peu plus grands. Il faut le dire, c'est un dossier de candidature aujourd'hui d'une capitale européenne, c'est pas du tout comme du temps de Lille. C'est vrai de la France, c'est vrai de tous les pays. Les Espagnols viennent de désigner leur capitale pour 2016, viennent de désigner. Vous voyez, donc ça veut dire que les candidatures ça dure entre 8 ans et 7 ans. À mon avis, c'est beaucoup trop long, mais ça, c'est un autre débat, parce que je crois que ça enlève à ces machines la spontanéité, la réactivité qu'elles devraient avoir en termes de programmation. Ça, je crois que c'est un débat important. D'ailleurs, l'Union européenne elle-même se pose des questions sur est-ce qu'elle n'a pas, en voulant faire ces compétitions à 2 tours, est-ce qu'elle n'a pas finalement bureaucratisé, entre guillemets, un petit peu le système.
Alors, je fais juste une parenthèse. Entre 2008 et 2010, oui, les 3 plus hauts salaires de MP 2013 ont augmenté de 17%.
Ça m'étonnerait, mais je ne sais pas d'où vous sortez ça, mais je crois que c'est entre 2008 et 2010, c'est les mêmes personnes, donc je ne pense pas qu'ils puissent...
On entend ça, vous savez très bien, on est en période de crise, vous savez très bien que beaucoup d'artistes fonctionnent avec pas grand-chose. Comment justifier des salaires élevés? Que répondez-vous aux gens qui disent MP 2013 est devenue une institution de plus qui a ses propres exigences en matière de fonctionnement, de frais, etc., et sur un territoire qui manque d'argent?
Oui. Mais je voudrais rappeler là aussi un chiffre tout simple. Actuellement, nous fonctionnons, et nous n'avons pas vocation à grossir, nous fonctionnons avec 50 équivalents temps plein. Bon, ça, on peut dire c'est beaucoup. Je ne pense pas que ça soit beaucoup. Lille a fonctionné, je crois, à la fin avec 70 équivalents temps plein la dernière année. Bon, on n'a pas des ratios très différents. La différence de coût, elle est liée à ce que je viens d'essayer d'expliquer, c'est-à-dire cet élément de durée qui est effectivement quelque chose. Bon, sur l'autre question qui est plus intéressante, mais puisque vous citiez des chiffres, je voulais un petit peu essayer de les expliquer. Je conteste pas la différence Lille et Marseille. Je voulais simplement expliquer pourquoi il y en a une et pourquoi elle s'est imposée à nous et quelles conséquences elle peut avoir. Sur la deuxième question qui est qu'est-ce qui au bout du compte revient aux artistes, ça c'est justement un des champs de l'évaluation qu'on va faire de la capitale. Moi je pense que le calcul que vous faites, si vous permettez, il est un petit peu rustique, parce que je pense que il faudrait le compléter quand même de toute une série d'autres effets induits. Aujourd'hui on est dans un montant, vous avez cité le chiffre, donc il est facile de faire la différence. On est aujourd'hui dans un ratio d'un peu moins de 30% sur le fonctionnement organisation, qui veut dire aussi la production, chose qui est quand même pas, il faut quand même produire les événements, hein, c'est pas du fonctionnement des milliards d'assistants de direction et je sais quoi qui peuvent faire fantasmer les gens, mais c'est vrai, j'assure que c'est pas vraiment pas ça. Et ensuite on a un budget de communication qui représente en gros 10% de la capitale, et le reste ce sont les projets. Donc on est alors dans les projets culturels là-dedans, bien entendu qu'il y a de la masse salariale pas la nôtre, mais celle des gestionnaires de structures, d'organisateurs, de producteurs, bien sûr, mais le milieu culturel il est fait comme ça. Donc dire à la fin il restera 7% pour les artistes, je pense que votre chiffre me paraît difficile à prouver.
Éloignons-nous provisoirement des chiffres.
Non, mais c'est pas moi qui ai commencé. Je
sur le terrain de la place des artistes. locaux, entre guillemets, autant qu'on puisse les qualifier comme ça. Bernard Latarger disait parfois, ce n'est pas une capitale provençale, c'est une capitale européenne. Est-ce qu'il y a une réflexion, voire même une évaluation d'un pourcentage, j'en sais rien, entre ce qui doit relever d'une dimension européenne d'artistes qui vont venir de partout et ce qui va relever de la valorisation des artistes qui sont ici.
Mais vous savez, les artistes qui sont ici, et il y en a d'excellents, ils refusent absolument d'être considérés comme des artistes d'ici. Hein, ça, c'est un point. Moi, je n'ai jamais rencontré d'artistes d'un territoire qui disent « je revendique une place dans un projet parce que je suis né là et que j'y vis ». Ils sont même en général très fâchés. Vous savez, quand l'Association française d'action artistique faisait ses fameuses saisons à l'étranger, vous aviez énormément d'artistes français dans tout le territoire qui disaient « Mais moi, je ne veux pas être représenté dans une expo sur la jeune création française en Corée ou au Japon parce que je suis un artiste, si je suis bon, il faut que les Coréens m'invitent. Si je ne suis pas bon, je ne veux pas être simplement avoir le lot de consolation de l'artiste français. » Et ben, je dirais, sur le territoire bucco-rhodanien, je crois que ça se dit comme ça, je n'ai pas rencontré un artiste qui me dit « Je veux être là parce que je suis artiste marseillais, aixois ou arlésien. » Ça serait une sorte d'injure qu'on leur ferait. Donc il faut... Je pense que, alors, c'est sur ce débat-là, je suis très surpris qu'on le mette en avant. Alors, par ailleurs, il se trouve que quand vous regardez les listes d'artistes qui sont dans les expos collectives, les metteurs en scène qui sont dans notre pré-programme, et là-dessus, on va les révéler le 12 janvier, donc je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais je vous dis, il y a bien entendu des tas de gens qui habitent dans le sud de la France, c'est tout à fait clair, mais ce n'est pas le critère de choix. Ça, je pense que vraiment, il faut l'affirmer clairement, et je pense que ce n'est pas le critère de choix d'aucune politique publique cohérente en matière de culture, qu'elle soit en capitale européenne ou qu'elle soit en politique culturelle. Il faut défendre les bons artistes, enfin, ceux qu'on estime être les bons artistes. Après, on peut discuter de ce qu'est un bon artiste, un mauvais artiste, ça c'est un autre débat, et il est très intéressant.
On va peut-être démarrer sur les échanges salles. Et puis je vous laisserai, après les échanges, de conclure.
C'était 2013, capitale désenchantée, un débat organisé par le mensuel régional satirique Le Ravi. Débat animé par Michel Guéraud, rédacteur en chef du Ravi. Les intervenants étaient Jean-François Chounier, directeur de Marseille-Provence 2013, Jean Bonfillon, vice-président délégué à la culture de la communauté des Pays d'Aix, Daniel Herman, adjoint à la culture de la ville de Marseille, Claire Antoniazza, adjointe à la culture de la ville d'Arles, et Nicolas Mezzetti, universitaire. Vous pouvez réécouter ce débat à tout moment sur le site de Radio Grenouille, radiogrenouille.com. Plus d'informations également sur le site du Ravi, leravi.org, un site sur lequel vous trouverez l'intégralité des 40 entretiens réalisés par le Ravi et Mediapart pour ce dossier spécial 2013, capitale désenchantée. Merci d'avoir été à l'écoute, à bientôt sur la Grenouille.